VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du lundi 27 novembre 2023. Avec vous, Eric Manelakidza, d'abord le sommaire. Tentative de déstabilisation en Sierra Leone, arrestation de plusieurs suspects, calme rétabli à Freetown. La campagne référendaire au Tchad, 3 semaines de bataille entre partisans et opposants de la nouvelle constitution.
Nous sommes résolus à nous engager à fond pour une victoire écrasante du oui.
Le fichier électoral au Togo, jugé fiable par l'Organisation internationale de la francophonie, mais contesté par l'opposition. Réfugiés affluents à Ménaka au Mali suite à la prise de Kidal, l'armée malienne attaque des positions présumées de groupes djihadistes. Chômage massif des jeunes au Congo-Brazzaville, un avenir incertain malgré les qualifications, certains perdent la vie en quête d'emploi.
Un bachelier tout comme moi, en train de soulever les casiers, c'est pas dans mes rêves.
Libération de 17 nouveaux otages, dont des ressortissants israéliens et américains, dans le cadre d'une trêve de 4 jours. Dans 10 minutes, vous suivrez l'économie et les sports. Mais d'abord le journal. Le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, affirmait que la majorité des instigateurs d'une tentative de déstabilisation de l'État ont été arrêtés par les forces de sécurité, assurant le rétablissement du calme à Freetown, la capitale, Rosine Munezero.
La plupart des leaders ont été arrêtés, selon le président Sierra Leone, dans une courte intervention sur la télévision nationale, sans plus de précision sur les personnes interpellées ni leur motivation. Le calme est rétabli après ce qu'il a décrit comme une tentative visant à saper la paix et la stabilité du pays. Freetown s'est réveillé hier au son des détonations. Le gouvernement a indiqué que des individus ont tenté de prendre d'assaut l'armurerie de la caserne de Wilberforce, une des principales du pays. Des heurts ont été rapportés près de la caserne de Morreytown, où se trouve la marine, et en d'autres points de la capitale. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des groupes d'hommes, mais aussi de femmes, présentés comme des détenus, s'éloigner dans les rues. Démentant l'une des nombreuses rumeurs circulant dans la ville, à savoir une tentative de prise de contrôle de la télévision nationale, le gouvernement a reconnu que les gardiens ont été dépassés par les assaillants et ont préféré opérer une retraite tactique. À la suite de cette attaque, un couvre-feu a été instauré dans tout le pays.
Afflux massif de réfugiés à Ménaka au Mali suite à la prise de Kidal. Crainte grandissante alors que des attaques de drones ciblent des positions présumées de djihadistes dans la région. Témoignage d'un habitant de Ménaka qui a bien voulu garder l'anonymat pour des raisons de sécurité.
Avec ce qui s'est passé là, les gens ils sont hyper parce que des frappes dans la ville même, donc ça fait peur. Maintenant, la situation dans laquelle ils vivent à Ménaka, vraiment, la situation même avant là est très critique parce qu'il y a tellement de déplacés à Ménaka que je ne peux même pas compter. Il y a des ONG ici, mais vraiment, leurs activités sont timides. Il n'y a pas de camp ici, donc les gens ils ont des difficultés même à là où ils vont descendre. Maintenant, les gens s'entassent dans des familles de parents. Tu vas voir une famille tout de suite à Ménaka là, où il y a plus de 5 familles, 6 familles, dans une seule famille. Et les gens, ils n'ont rien. Donc les gens sont dans le désordre ici à Ménaka, surtout les déplacés là. Voilà, il y a même des gens qui n'arrivent même pas à voir là où ils logent. Parce que même les espaces où les gens peuvent aller là, ils sont occupés par les déplacés. Ils ont vraiment des difficultés. Les gens quand même sont venus en nombre à Ménaka dans la semaine là.
Un habitant de Ménaka, dans l'est du Mali, près de la frontière avec le Niger. Un prêtre catholique allemand enlevé au Mali en novembre 2022 a été libéré. Information confirmée par les autorités ecclésiastiques et gouvernementales. Jean-Roger Bion.
Le prêtre Ange Joachim Lauré, enlevé le 20 novembre 2022, a été libéré ce dimanche et a pris l'avion pour son pays, a déclaré un responsable de l'archevêché, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat. Un responsable du gouvernement a confirmé l'information sous couvert d'anonymat. Aucune précision n'a été fournie sur l'état de santé du prêtre, ni les conditions de sa détention et de sa libération. Le père Ange Joachim Lauré avait disparu alors qu'il était censé célébrer la messe dans un quartier de Bamako. Il était considéré depuis comme ayant été victime d'un kidnapping courant au Mali, mais exceptionnel dans la capitale. Il s'agit du deuxième Allemand libéré en moins d'un an, après la libération en décembre 2022 de l'humanitaire allemand Georges Lange. Un certain nombre d'otages étrangers, dont un Sud-Africain et un couple d'Italiens et leurs fils, sont détenus au Sahel.
La campagne pour le référendum constitutionnel du 17 décembre au Tchad a débuté samedi, marquant une étape cruciale vers des élections reportées à 2024 par la junte militaire au pouvoir depuis 2 ans et demi, Nani Tetalani.
Plus de 8,3 millions de Tchadiens sur 18 millions seront invités à voter. Le nouveau projet de constitution n'est pas très éloigné du précédent qui concentrait beaucoup de pouvoir dans les mains du chef de l'État. Lors du lancement de la campagne, le Premier ministre Saleh Kebzabo, à la tête d'une vaste coalition pour le oui, a prôné les valeurs d'un État unitaire fortement décentralisé. Les partisans d'un État fédéral invitent de leur côté les électeurs à rejeter ce texte en votant non. Le général Mamat Déby, 37 ans, devenu président de transition le 20 avril 2021 après la mort de son père, a promis de rendre le pouvoir aux civils par des élections libres après une transition de 18 mois et de ne pas s'y présenter. Mais plus tard, sur recommandation d'un dialogue national boycotté par la grande majorité de l'opposition et les groupes rebelles, Mamat Déby a prolongé la transition de 2 ans et va se présenter à la future présidentielle. L'opposant au régime, le docteur Succès Masra, président du parti Les Transformateurs, revenu récemment au pays, n'a pas encore dévoilé sa stratégie.
La société nigérienne d'électricité Nigelec a mis en service une centrale photovoltaïque de 30 MW pour compenser d'importantes pénuries depuis que le Nigeria a arrêté de fournir de l'électricité au Niger. En réaction au coup d'État de juillet, a annoncé dimanche le ministre de l'Énergie. Équipée de plus de 55 000 panneaux solaires, cette centrale est la plus grande infrastructure énergétique solaire jamais réalisée au Niger. L'installation avait été inaugurée le 5 juillet par le président renversé par le coup d'État, Mohamed Bazoum. Le pape François, qui doit se rendre vendredi à Dubaï pour participer à une conférence de l'ONU sur le climat, a mis en garde dimanche contre la menace climatique qui met en danger la vie sur Terre. Le pape argentin, qui a fait de la défense de l'environnement l'un des piliers de son pontificat, doit prononcer un discours très attendu. Il devrait dénoncer l'inaction des pays concernés et inciter à réduire de façon draconienne leurs émissions de gaz à effet de serre. Le fragile cessez-le-feu entre Israël et le Hamas a repris son cours dimanche après la libération de 17 nouveaux otages, comprenant 17 Israéliens et le premier Américain, dans le cadre d'une troisième série de libérations au titre d'une trêve de 4 jours. Mohamedou Onfa.
Certains otages ont été remis directement à Israël, tandis que d'autres sont passés par l'Égypte. L'armée israélienne a indiqué qu'un otage avait été transporté par avion directement à l'hôpital. Les otages étaient âgés de 4 à 84 ans. Parmi eux figurait une fillette de 4 ans, dont les parents ont été tués lors de l'attaque du Hamas, qui a déclenché la guerre le 7 octobre. Au total, 9 enfants âgés de 17 ans ou moins figuraient sur la liste, selon le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Par ailleurs, le Hamas a déclaré avoir libéré un otage russe en réponse aux efforts du président russe Vladimir Poutine et en signe d'appréciation de la position de Moscou sur la guerre. Un quatrième échange est attendu lundi, dernier jour du cessez-le-feu, au cours duquel 50 otages et 150 prisonniers palestiniens doivent être libérés. Tous sont des femmes et des mineurs. Les médiateurs internationaux dirigés par les États-Unis, l'Égypte et le Qatar tentent de prolonger le cessez-le-feu qui a débuté vendredi. Avant la dernière libération, M. Netanyahou s'est rendu dans la bande de Gaza où il s'est entretenu avec des soldats. « Nous faisons tout notre possible pour rendre nos otages et à la fin de la journée, nous les rendrons tous », a-t-il déclaré, ajoutant que nous continuerons jusqu'à la fin, jusqu'à la victoire.
Plusieurs dizaines de milliers de Marocains ont manifesté dimanche à Casablanca en solidarité avec le peuple palestinien, appelant à un cessez-le-feu permanent dans la bande de Gaza et à la suspension des relations établies fin 2020 avec Israël. Des milliers de personnes ont marché contre l'antisémitisme dimanche dans les rues de Londres au lendemain d'une nouvelle manifestation pro-palestinienne au troisième jour de la trêve entre Israël et le Hamas. Près de 400 localités sont sans électricité en Ukraine en raison de conditions météorologiques extrêmement difficiles, a annoncé dimanche le président Volodymyr Zelensky.
Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco, présentée ce matin par Alexandrine Rollignon.
La Somalie a officiellement rejoint vendredi la Communauté des États d'Afrique de l'Est, l'EAC, a annoncé cette organisation régionale dotée d'un marché unique permettant la libre circulation des biens et personnes. Fondée en 2000, l'EAC a notamment pour but de faciliter le commerce transfrontalier en supprimant les droits de douane entre ses États membres. Elle a établi un marché commun en 2010. 9 sociétés pétrolières, parmi lesquelles le géant français Total Energy, devront payer l'équivalent de plus de 165 millions d'euros d'amende pour pratiques anticoncurrentielles sur le marché de la distribution d'hydrocarbures au Maroc, selon un communiqué officiel publié jeudi. Le Conseil de la concurrence a fait état d'accord avec ces 9 entreprises qui portent sur un ensemble d'engagements comportementaux auxquels ces sociétés ainsi que leurs organisations professionnelles ont souscrit afin d'améliorer le fonctionnement concurrentiel du marché des hydrocarbures. Les consommateurs se sont rendus dans les magasins du monde entier à l'occasion du Black Friday qui a semblé peu animé par rapport aux années précédentes. Les consommateurs se sont rués sur les appareils électroniques, les vêtements et les articles ménagers à prix réduit à l'occasion du coup d'envoi de la période des fêtes de fin d'année, cruciale pour les grandes enseignes de la distribution.
Sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Élisée Sonia. Bonjour Élisée.
Oui, bonjour Erika et bonjour à tous.
La première journée des phases de poule des interclubs de la CAF a pris fin hier dimanche.
Oui, et en Ligue des Champions, le Mamelodi Sundowns fait fort en dominant 3-0 le FC Noisy-Bou. Il partage la première place du groupe A avec les Égyptiens de Pyramide qui ont fait l'essentiel 1-0 devant le TP Mazembe. Quant à la poule B, elle est dominée par les Botswanais de Jwaneng Galaxy qui ont créé la sensation en allant battre 1-0 le Wydad à Casablanca. Pour le reste, l'Espérance de Tunis et le Petro de Luanda soignent aussi leur entrée dans le groupe C, tout comme le tenant du titre Al Ahly du Caire qui n'a pas tremblé dans la poule D, vainqueur 3-0 des Ghanéens de Médiama.
Début réussi également pour les deux clubs égyptiens en Coupe de la CAF.
Victoire étriquée 1-0 du Zamalek et du futur FC, respectivement face aux Libyens d'Abou Salem et aux Sud-Africains de Supersport. Les Tunisiens du club africain ont fait mieux 2-0 contre les Ghanéens de Dream FC, tout comme les Angolais de Sagrada Esperanza devant les Guinéens de Koya.
La suite des résultats avec vous, Élisée.
Le stade malien démarre fort avec sa victoire de 3-0 sur la pelouse des Diables Noirs du Congo. Belle performance aussi des Nigériens de Rivers United qui ont dominé 3-0 les Angolais de Lobito. La Renaissance de Berkane a aussi assuré 2-0 devant les Sud-Africains de Sekoukoun. Même score en faveur du tenant du titre, l'USM Alger, qui recevait les Libyens de Benghazi.
Football toujours avec la Coupe du Monde des moins de 17 ans, le Mali est dans le dernier carré.
Exactement, Eric. Dans le duel 100% africain contre le Maroc en quart de finale, les Aiglons sont venus à bout des Lionceaux, score 1-0. Ils joueront la France demain en demi-finale. L'autre demi va opposer l'Argentine à l'Allemagne, un grand classique du football mondial.
Et puis la Basketball Africa League pour finir et on connaît les 3 dernières équipes qualifiées pour la phase finale.
Oui, et c'est à l'issue des qualifications Elite 16 de la division S qui a eu lieu à Johannesburg en Afrique du Sud. On retrouve l'équipe locale, les Cape Town Tigers, les Ougandais de City Oilers, puis les Burundais de Dynamo qui ont battu in extremis les Malgaches de COSPN 79-78. À noter que la phase finale aura lieu en mars 2024 dans 3 conférences. Sahara, Nil et la nouvelle Kalahari qui va d'ailleurs accueillir le match d'ouverture en attendant la finale prévue à Kigali au Rwanda pour la 4e année de suite.
C'était les sports avec Élisée Saunier.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manelakiza de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Tchad, la campagne pour le référendum a démarré ce week-end et sera clôturée le 15 décembre. Pendant 3 semaines, partisans et opposants du projet constitutionnel auront l'opportunité de convaincre. Ce vote va déterminer la structure de l'État et par la suite l'organisation d'élections libres et démocratiques. Une campagne acharnée en perspective, selon André Kodmajingar, correspondant de VOA Afrique en N'Djamena.
Nous sommes résolus à nous engager à fond pour une victoire écrasante du oui.
Salih Kebzabo, premier ministre de transition, il préside une coalition de plus de 200 partis politiques qu'il a mis en place lui-même pour un oui au référendum constitutionnel 2023.
Comment un premier ministre de transition descend dans l'arène électorale pour mettre en place avec les sceaux de l'État une coalition pour le oui? Mais où est la sincérité du scrutin? Où est la neutralité des organes de l'État? Où est l'égalité des compétitions qui vraiment sont des principaux critères de fiabilité d'une élection quelle qu'elle soit?
Max Kamkoy, l'un des porte-parole du groupe de concertation des partis politiques, selon lui, dans le fond comme dans la forme, cet acte va entraîner automatiquement des conséquences juridiques et financières d'un camp sur l'autre. Pour Salih Kebzabo, cette nouvelle constitution pour laquelle il appelle à un vote massif est véritablement inclusive et permettra de mettre en place un régime politique réellement démocratique.
Plus concrètement, les élections présidentielles, législatives et sénatoriales, provinciales et communales seront organisées non plus par la CENI, qui a souvent été critiquée et désavouée, mais par une agence nationale de gestion des élections qui sera un organe réellement indépendant et permanent prescrit par la Constitution.
Takilal Ndolasson, président du Front populaire pour la libération du Sud, un parti d'obédience fédéraliste, a rallié armes et bagages la coalition de Salih Kebzabo. Mais sera-t-il sa base?
Dans la politique, on est des éclaireurs. Après, on les explique et ils vont comprendre. Mais ma base, après beaucoup d'explications, ils ont commencé à comprendre. Nous mettons la lutte de la fédération entre parenthèses pour l'instant, pour l'intérêt supérieur de la nation. Nous n'abandonnons pas. Mais la politique, c'est pas la religion. Non, non, non. La politique, c'est les intérêts du moment.
Pour le porte-parole du regroupement des partis politiques dénommé le Front du Non, Brice Mbaye-Mongue-Dembaye, l'État unitaire a montré ses limites et appelle les électeurs à voter non.
Le système unitaire a favorisé la mise en place d'une oligarchie savamment bâtie sur des cendres des ruines de l'État. La confiscation de tous les postes juteux de l'administration publique, les détournements et pillages à ciel ouvert. Peuple tchadien, tu ne dois plus accepter ce genre de privation. C'est pourquoi le Front du Non vous appelle, tchadien, tchadienne, de voter non pour que la constitution de l'État unitaire ne passe plus et qu'au lendemain du 17 décembre, nous nous retrouvions à remettre la constitution de l'État fédéral sur la table.
L'opposant au régime de transition, Dr Succès Masra, président du parti Les Transformateurs, n'a pas encore dévoilé sa stratégie. Cependant, Salih Kebzabo, président de la coalition pour un oui, se dit confiant pour sa victoire.
Nous drainons la très grande majorité du pays derrière le oui que nous prenons. Et c'est en terminant que je vais vous dire encore une fois, oui. Oui.
André Kodumajingar, N'Djamena pour VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Togo, la Commission électorale nationale indépendante déclare que le fichier électoral devant servir pour les élections législatives et régionales est désormais accessible. Les experts de l'Organisation internationale de la francophonie, mandatés par le gouvernement, l'ont jugé suffisamment fiable pour la tenue des élections. Les partis de l'opposition ne partagent pas cet avis. Détail avec notre correspondant Kosubusu à Lomé.
Le fichier issu du recensement électoral qui s'est déroulé du 29 avril au 14 juin 2023 a subi un premier audit interne de la part de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Selon le président de l'institution, cette opération a permis de rayer 129 000 personnes de la liste électorale. Yabré Dago.
Ce recensement nous avait permis de compter 4 432 936 électeurs potentiels. Et au niveau de la CENI, nous avons mené un audit interne. Nous avons enlevé l'inscription des mineurs, les doubles inscriptions, etc. Bref, tous ceux qui ne devaient pas figurer sur une liste électorale. Après cet audit interne, nous avons sollicité l'OIF pour faire l'audit externe.
Les experts de l'OIF qui ont travaillé sur le document du 20 au 27 octobre 2023 ont estimé que le fichier électoral togolais est conforme aux normes et standards internationaux. Désiré Niaouira, ambassadeur et conseiller spécial de la secrétaire générale de la francophonie.
Après les vérifications et analyses menées, les experts ont délivré des conclusions rassurantes sur la qualité du fichier électoral togolais. Ceci en termes de fiabilité, de l'opération de recensement des électeurs, de son caractère biométrique et de sa représentativité géographique et sociologique dans les 39 préfectures et 5 régions du pays. En somme, je peux dire au nom des experts que le fichier électoral togolais est suffisamment fiable pour permettre la tenue des prochaines élections régionales et législatives dans des conditions de confiance.
L'opposant Jean-Pierre Fabre, le président national de l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement, n'est pas de cet avis.
Je ne trouve pas ça sérieux. L'OIF n'ignore pas qu'à un moment donné, le recensement électoral a été arrêté et que la plupart des acteurs politiques, en tout cas de l'opposition et même de la société civile, ont condamné cela et ont demandé la poursuite du recensement. Pour nous, on a l'impression que l'OIF a été invité pour valider quelque chose dont le pouvoir sait qu'il est largement insuffisant.
Pour Benjamin Amouzouvi de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral du Togo, tout est à refaire.
Face à cette situation où le fichier électoral commence par avoir des problèmes, l'audit qu'on attendait n'a pas donné le résultat escompté. Nous nous posons la question de savoir est-ce qu'il ne faut pas aller à un nouvel audit avec une institution plus sérieuse, plus crédible, parce que ce que nous avons vu là, ce n'est pas vraiment ça. Et donc si on continue comme ça, de facto, les élections à venir ne seront pas crédibles.
Les élections législatives et régionales sont prévues pour se tenir en principe cette année. Mais jusque-là, le gouvernement n'a annoncé aucune date alors que le mandat des députés s'achève officiellement à la fin de cette année. Kossi Oussou, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24 heures sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Le Burkina Faso lance la construction de sa première raffinerie d'or pour gérer localement sa production, mettant fin à l'exportation pour le traitement. Prévu dans 11 mois, le premier lingot d'or sera produit sur place, rapporte notre correspondant Lamine Traoré depuis Ouagadougou.
La raffinerie qui doit être fonctionnelle au bout de 11 mois va être construite dans le quartier UP de Ouagadougou. La raffinerie va abriter la Société nationale des substances précieuses qui a pour ambition de promouvoir les produits miniers. L'idée de créer une telle raffinerie est une question de souveraineté selon le capitaine Ibrahim Traoré, le président de la transition.
Dans l'environnement de la production d'or au Burkina, pendant longtemps on avait dit que nous n'étions pas un pays producteur d'or. Mais depuis un certain temps, l'or est devenu le premier produit d'exportation. Mais nous n'avons pas de contrôle sur l'or, que ce soit la recherche, la production. Il ne s'agira plus pour nous d'amener notre or à l'extérieur pour raffiner. Nous le raffinons sur place, nous savons quelle est la teneur réelle de l'or brut qui sort.
L'impact économique va être grand si jamais le projet voit le jour. Docteur Abdoulaye Siri, économiste, enseignant-chercheur à l'université de Ouagadougou.
Déjà, il y a une chaîne en fait, de production de l'or qui existe, c'est-à-dire que de l'or paillage. Vous avez aussi des sociétés minières, des fournisseurs de services, donc ça fait toute une chaîne. Si la raffinerie donc, vient s'ajouter, ça allonge encore la chaîne et ça crée davantage en fait, de la richesse. Plutôt que l'or soit exporté donc, de façon brute, l'exploitation, ça va faire en sorte vraiment qu'il y aura la valeur ajoutée en fait de cet or-là sera beaucoup plus grande. Et côté emploi, il y aura assez d'emplois.
Cependant, certains analystes estiment qu'il faut s'assurer de sa bonne gestion. Moussa Sawadogo, journaliste consultant et analyste politique à la télévision BF1.
Je dirais qu'il faut faire attention parce qu'il y a des pays qui ont essayé ça avant nous. Je prends comme exemple le Botswana, qui est le deuxième producteur mondial de diamants et qui aujourd'hui a réussi justement à faire en sorte que tout le diamant botswanais soit traité sur place et exporté. Ce qui a permis aujourd'hui au Botswana d'être quand même un pays émergent, très beaucoup développé. Il faudrait qu'un certain nombre de mesures soient prises pour que le projet puisse être vraiment bénéfique pour le Burkinabé. Et la première des choses, c'est éviter, une fois que ces raffineries vont rentrer en activité, éviter les évasions fiscales, c'est-à-dire la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance.
La raffinerie sera construite sur 5 hectares et aura une capacité de production de 400 kg d'or par jour, 650 tonnes l'an. Selon les autorités, elle va permettre de créer 100 nouveaux emplois directs. Les chiffres du ministère des Mines indiquent que l'exploitation de l'or a rapporté au pays plus de 430 milliards de francs CFA en 2021 et plus de 540 milliards de francs CFA en 2022, soit une augmentation de plus de 110 milliards de francs CFA en valeur absolue. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Au Congo-Brazzaville, plus de 42% des jeunes en âge de travailler se trouvent confrontés au chômage selon les experts de la Banque mondiale. Malgré leurs qualifications, nombreux sont contraints d'exercer des emplois précaires pour subvenir à leurs besoins. Un sentiment de désespoir émerge quant à leur avenir, accentué par la perte tragique de 31 vies la semaine dernière lors d'une quête d'emploi auprès de l'armée. Voici le reportage de Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Marché Total à Bakongo, l'un des plus grands de la capitale congolaise. Ignace, Bac plus 2, travaille dans un dépôt de boissons pour souvenir à ses besoins.
Un bachelier tout comme moi, en train de soulever les casiers, c'est pas dans mes rêves. Donc c'est le chômage qui fait en sorte que je puisse faire ce petit boulot pour au moins s'acquitter à mes tâches.
Dans les galeries de Bataclan à Mongali, Chris, licencié en économie, s'est reconverti en réparateur d'ordinateurs pour faire face au chômage.
C'est compliqué pour joindre les deux bouts. Faudrait vendre l'écran d'un client, faudrait vendre le disque dur d'un client pour ensuite rentrer encore dans les problèmes. C'est vraiment compliqué. On n'arrive même pas à s'en sortir, même pas.
Merveille, lui, organise les concerts musicaux dans les rues de Makelele pour trouver de quoi manger.
On a une base à Bifouiti. Parfois, on joue au marché bourreau. Quand ça a marché, tu peux rentrer avec un 5000 francs à la maison. Mais quand ça n'a pas marché, l'avenir est mort. Donc du coup, on ne s'attend à rien.
Selon les experts, le chômage sévit de façon endémique dans le pays. Les jeunes sont obligés de tout tenter. Orviche, enseignant diplômé, en attente de recrutement, a fini par devenir conducteur de moto-taxi.
Que je sois recruté un jour, malheureusement, bon, alors c'est difficile pour moi pour atteindre les deux bouts du mois. Je suis obligé d'utiliser ma moto pour prendre les colis des dames d'ici, pour amener par-ci par-là, mais vraiment c'est pas facile.
Le marché de l'emploi est très étriqué et les jeunes prennent désespérément des initiatives pour l'auto-emploi. Dav Mafoula a été le plus jeune candidat à la présidentielle de 2021. Il connaît la situation de terrain.
Je les côtoie au quotidien et je peux vous garantir que même manger est un casse-tête pour beaucoup. Cette situation de manque d'emploi a des conséquences désastreuses sur le plan économique et social. Et cette situation favorise également la possibilité de délinquance. Mais la faute incombe aux dirigeants qui ont fait germer et laissé installer l'idée selon laquelle l'emploi, c'est dans l'armée, c'est dans la police, c'est dans la gendarmerie. Le résultat est là.
D'après la Banque mondiale, le chômage touche jusqu'à 42% des jeunes en âge de travailler. Mais qu'est-ce qui peut expliquer un tel phénomène ? Alphonse Ndongo, analyste économique.
La formation que donne l'université Marien Ngouabi à l'essentiel des jeunes qu'on jette sur le marché de l'emploi, ce sont des gens qui sont dans des études théoriques. La Société nationale des pétroles du Congo, d'autres grandes structures comme des banques, comme les sociétés brassicoles. On a l'impression que les offres d'emploi sont gérées franchement en circuit fermé.
Le gouvernement a pris plusieurs initiatives pour contenir le chômage, mais elles n'ont jusque-là pas encore abouti, selon les jeunes Arsène Séverin Brazzaville, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui avec Eric Manelakiza, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Georges Léonard Sagno a assuré la réalisation et la mise en onde. Un grand merci à toute l'équipe de rédaction. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes et à la prochaine.